Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Mélève et Malka et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Bonsoir Rav Lemel.
Bonsoir.
Shavuot Tov et Shabbat Shalom aussi pour ceux qui nous écoutent dès le vendredi après-midi sur Facebook notamment ou en région puisque cette émission est évidemment enregistrée avant Shabbat. Alors, Raveli Lemel, on avance comme chaque semaine dans le survol de notre paracha et donc on est arrivé à Vaera. Et alors, vous avez remarqué que dès le début de notre paracha, donc, Hachem donne un ordre à Moshe et à Aaron, à Moïse et à son frère Aaron. Mais oui, mais c'est quoi cet ordre? Et d'ailleurs, pourquoi on commence sur cet ordre-là? Qu'est-ce qu'on va en apprendre? Qu'est-ce qui va être dit, justement? On est kulozen, comme on dit en hébreu, on n'est qu'une oreille, on vous écoute, Rav Lemel.
Exact. C'est vrai que nous sommes dans une paracha extrêmement riche, avec beaucoup d'enseignements. On va être avec l'émergence des plaies, du début du processus de la sortie d'Égypte. Alors au tout début de la paracha, il y a un verset quand même un petit peu énigmatique. Vaïdaber Hachem el Moshe vel Aaron, Vaïtsavem el Bene Israël, Lotsi el Bene Israël, Meret Misraël. Ce qui veut dire Dieu parla à Moshe Aaron, il leur a donné un ordre à propos des enfants d'Israël, vers les enfants d'Israël, on dirait presque, pour les sortir. Et puis, mais de quoi il s'agit, quoi? On ne sait pas de quoi il leur parle. Il y a un ordre qui a été donné. Alors, il y a plusieurs lectures, évidemment, qui sont proposées par les maîtres du Talmud, du Halakhot, du Midrash, etc. Et je voudrais m'arrêter sur deux de ces enseignements qui, au fond, m'interpellent et j'aimerais beaucoup partager avec vous. Tout d'abord, l'Agmara nous dit, oui, il leur donne un ordre, il va leur donner des lois. Il va leur dire, au fait, vous allez maintenant venir leur apprendre. Alors, on se rappelle, hein, le peuple d'Israël est en esclavage, ils sont dans un état de grande souffrance. Et maintenant, Moshe Aaron, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez venir leur apprendre les lois qui concernent les esclaves. Alors, vous savez qu'en effet, dans la Torah, il y a ce que l'on appelle le Eved Ivri, l'esclave juif. Ce n'est pas le bon terme, parce que l'esclave a toujours cette connotation péjorative. C'est le serviteur, celui qui travaille chez nous, et il y a beaucoup de lois qui le concernent, et de grande vigilance, justement, par rapport à lui, par rapport à sa souffrance, par rapport qu'il ne se sente pas dans un état d'infériorité. Enfin, la Torah est prolixe sur, justement, toutes ces lois qui concernent ce fameux esclave, ce serviteur juif, et c'est maintenant qu'on va devoir les enseigner, a priori. Mais pourquoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est ça que ce peuple qui est en train de souffrir a besoin d'entendre? Quelles seront les lois qu'il devra respecter plus tard en tant que peuple, lorsqu'il sera sur sa terre, lorsque les descendants de ceux qui ont été maintenant esclaves seront eux-mêmes des propriétaires et auront un personnel de maison? Comment ils devront se comporter avec eux? Eh bien justement, disent nos maîtres, justement oui. C'est maintenant qu'il faut le dire, parce que c'est maintenant qu'ils sont en train de le vivre. Et donc, ils prennent encore mieux la mesure de ce qui est en train de se passer, et c'est la raison pour laquelle ils pourront peut-être encore mieux le transmettre. Et la Torah ici nous ouvre à quelque chose qui est extrêmement important, c'est comment savoir intégrer une situation pour par la suite garder une sensibilité par rapport à tout ce qu'elle était en train de nous dire. Et c'est quelque chose de très très large au fond. Alors ici, Hachem dit, voilà, vous allez leur dire, eh bien, rappelez-vous qu'un jour, il y aura des lois qui concernent les serviteurs. Mais dans la Torah, ces lois, ça serait exactement le contraire de ce que vous êtes en train de vivre. Et pour bien leur montrer qu'ils ne doivent pas s'inspirer et garder en tête la manière dont on s'est comporté vis-à-vis d'eux, et par la suite, malheureusement, se comporter de cette manière, chose que l'on peut malheureusement pas voir. Parfois voir, eh bien, moi, on m'a fait ça et ça, eh bien, ça se passait comme ça, mais je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas la même chose. Eh bien, justement, non. On connaît cette histoire qui est une histoire vraie, qui est extraordinaire du Rabbi de Tzanz. Je l'ai déjà rapporté, d'ailleurs, ici, sur cette antenne, je pense, un jour. Le Rabbi de Tzanz, qui a créé ce fameux hôpital, l'Agnado à Natania, et il avait pris l'engagement de créer cet hôpital quand justement il était à Auschwitz, qu'il a perdu son épouse, ses 11 enfants, et qu'il a dit, eh bien, si je m'en sors, entre autres, je créerai un hôpital dans lequel on soignera tout le monde. Pourquoi toujours cette même idée? C'est que quand vous êtes dans une situation particulière, vous risquez de vous en inspirer pour pouvoir par la suite avoir un modèle de dysfonctionnement dans ce domaine-là. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. C'est maintenant que vous vivez ce que ça veut dire, maintenant que vous ressentez ce que ça veut dire être esclave, travailler pour d'autres dans des conditions inhumaines, c'est maintenant qu'on vous dit, mais attention, eh bien, un jour, vous-même, vous devrez être particulièrement vigilant lorsque vous aurez des personnes qui travailleront pour vous. Ça, c'est déjà premier enseignement. Et le second que j'avais envie de partager toujours sur ce verset, c'est ce Rashi qui est très impressionnant, dans lequel Hachem là parle à Moshe Aaron, il leur dit, je vous donne un ordre. Mais c'est quoi cet ordre? Tziva lahem, il leur a donné l'isbol otam, de les supporter, vola hanhig otam benachat, et de les diriger avec calme, avec sérénité. Dieu dit à Moshe Aaron, sachez que vous allez être dirigeant. Eh bien, ce que j'attends de vous, l'ordre que je vous donne à propos des enfants d'Israël, donc c'est une seconde lecture des maîtres du Talmud, c'est d'être extrêmement vigilant par rapport à la manière dont vous allez agir par rapport à eux. Et là, il y a ici un texte qui est assez impressionnant, dans lequel Hachem dit à Moshe Aaron, vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que Banaï Tarchanimem Sarbanimem, parce que mes enfants Tarchanimem, ils sont insupportables, ils sont Sarbanim, ils se révoltent. Le peuple juif, c'est compliqué, vous allez voir à gérer. C'est à cette condition que vous prenez sur vous cette responsabilité de les diriger. C'est tout simplement chez Kalelou et Trem d'être prêt à vous faire maudire par eux et voire même qu'ils vous jettent des pierres. Et c'est vrai que cette seconde lecture, elle est très impressionnante parce que elle est en train de dire à Moshe Aaron, voilà, vous allez vous dévouer pour ce peuple maintenant, vous allez le sortir, mais ne vous attendez pas à ce que nécessairement les choses soient simples par la suite. Sachez qu'en effet, le clan d'Israël, eh bien, risque d'être un peuple complexe par la suite dans la manière dont on va le diriger. Mais moi, ce que je vous ordonne, je vous dis, ce n'est pas pour autant que ça vous laissera la liberté d'agir de manière dure, de manière méprisante ou que sais-je par rapport à eux. Votre attitude en tant que chef, en tant que responsable, aujourd'hui on appellerait communautaire, puisque c'est un petit peu ça qu'on pourrait définir aujourd'hui, c'est de montrer cet exemple dans votre manière à vous de savoir gérer lorsque vous-même vous vous faites agresser, lorsque vous-même vous retrouvez dans une situation dans laquelle eh bien, ces personnes dont vous occupez vont dysfonctionner par rapport à vous. Et donc, on a ici, je crois, en point commun, en tout cas entre ces deux lectures qui sont complémentaires, toute cette notion de à nouveau, et c'est très impressionnant parce qu'on voit ô combien dans la Torah c'est fondamental, tout ce qui a trait au niveau du rapport à l'humain. Première partie, c'est attention, vous vivez quelque chose, emmagasinez votre expérience pour par la suite bien comprendre ce que la Torah attend de vous dans votre manière de fonctionner vis-à-vis d'un tiers. De la même manière, l'autre dysfonctionne par rapport à toi, l'autre, ici en l'occurrence le peuple, ne se comporte peut-être pas de la manière dont tu l'attendrais. Eh bien moi ce que je te donne comme ordre, dit HaKadosh Baruch Hu, c'est l'isbol, de le supporter et de continuer à les diriger, c'est-à-dire de ne pas te défausser, de ne pas te dire « ah ben si c'est comme ça que vous fonctionnez, eh bien tant pis, ne comptez pas sur moi ». Non, ta responsabilité elle est là, tu dois continuer à l'exprimer et ce, quel que soit le modèle de fonctionnement que va avoir le peuple d'Israël lorsque tu seras en train de t'en occuper, quand tu seras en train de le gérer. Et c'est une leçon, au fond, pour nous toutes et pour nous tous, parce qu'on a tous, à un moment ou à un autre, un principe de responsabilité dans notre vie par rapport à des tiers. Ça peut être au niveau communautaire, mais ça peut être au niveau familial, ça peut être dans des endroits beaucoup plus restreints. Et là, la Torah nous dit, attention, un, fais en telle sorte d'agir comme il se doit par rapport à l'autre et ne calque pas ton attitude vis-à-vis de lui, de la manière dont lui agit vis-à-vis de toi. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Et surtout, chaque fois que tu vis une expérience et que tu ressens quelque chose, alors rappelle-toi de ce que tu as pu ressentir. Ce n'était pas simple d'être esclave en Égypte, c'était difficile. Alors garde en tête ce souvenir pour que lorsque plus tard tu auras une posture relationnelle différente par rapport à d'autres personnes, ce souvenir reste vivace et conditionne la manière dont tu vas agir et fonctionner par rapport à eux. Voilà, ici, en tout cas, sur ces deux lectures, il y en a d'autres, mais sur ces deux lectures du verset, un petit peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette paracha.
Ravéli Lemel, quand on sait effectivement le poids qui pèse sur nos rabbanim, on vous écoutait avec énormément de concentration. Ravéli Lemel, je vous remercie. Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et à la semaine prochaine.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom pour ceux qui nous écoutent le vendredi. Et on part à présent pour Jérusalem. On le retrouve Rav Mordechai Bitton. Shalom Alechem, Rav Mordechai.
Shalom Alechem, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Pour les uns et pour les autres.
Et pour ceux qui écoutent le samedi soir sur Radio Shalom pour Melav et Malka, Shavua Tov. Alors, Rav Mordechai Bitton, on compare très souvent, même toujours en fait, l'esclavage des Juifs en Égypte à la période nazie. Et d'ailleurs, certains Chachamim nous disent, vous savez, c'était encore pire en Égypte. Et vous voulez revenir là-dessus en faisant un lien avec l'actualité. On a tous été esclaves du Covid, c'est-à-dire nos vies ont été mises par terre. Évidemment, on n'a pas souffert autant qu'à l'époque nazie, en tout cas pour ceux qui ont la chance, comme vous et moi, d'être tout simplement en bonne santé. Mais voilà, c'est quand même, il y a eu un fléau mondial et qui restera dans l'histoire et dans les mémoires. Et c'est aussi une forme de contrainte, de contrainte arbitraire très dure. Et ça vous interpelle, vous. Pour évoquer notre paracha, vous avez envie de le prendre sous cet angle-là. Voilà, on va se sortir, apparemment, on est en train de sortir de la crise, mais à quel prix et qu'est-ce qu'il en restera?
Alors, en fait, la réflexion est la suivante, c'est que les Juifs, comme on l'a dit, ils sont restés en esclaves en Égypte pendant 210 ans, la phase dure de l'esclavage a duré 86 ans, et la libération qui nous est racontée dans le livre de Shemot et dans les parachas donc de Vaera et Bo et Béchalar, c'est les trois parachas qu'on va lire cette semaine et la semaine d'après, en fait sont des parachas qui nous racontent la fin de cet exil. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cet exil? Les Bnei Israël ont mérité Moshe Rabbeinu, Moïse, la révélation de la Torah, et puis ils auraient pu rentrer en Eretz Israël et achever l'histoire avec le Mashiach, mais la faute des Meraglim, la faute des explorateurs en a décidé autrement. Ils ont mérité une délivrance qui était une véritable délivrance. D'ailleurs, le Beit HaLevi avait l'habitude de dire que quand on dit le soir de la Gada que si on n'avait pas été libéré, on serait encore en Égypte, il disait, ça ne veut pas dire qu'on aurait été en Égypte physiquement. On se serait libéré un peu comme des Spartacus, comme des esclaves qui se libèrent, mais on serait resté des Égyptiens. Mais là, grâce finalement à cet acte de libération qui a été mené par Moshe Rabbeinu sous la conduite d'Hachem, donc c'est une véritable libération spirituelle et donc un saut au niveau de la Emouna, au niveau de la foi, qui a été finalement pratiqué par les Bnei Israël. Et la réflexion que ça m'impose par rapport à notre génération. Le Admour de Klossenburg, qui est un très grand Admour, c'est le fondateur de la Kyria du quartier de Sanz à Natania, que les Français connaissent bien. Le Admour de Klossenburg disait, on lui a posé la question, on lui a dit, est-ce que vous avez vécu un instant de Machber, un instant où vous avez été brisé dans la période où vous avez été déporté? Il a dit oui, il y a eu un moment où j'ai été brisé. Alors on lui a dit lequel? C'est un grand homme, c'est surprenant, un esprit comme ça qui peut se briser. Il a dit oui, à la fin de la guerre, quand j'ai vu qu'on a été libéré par les Américains. Avec toutes les souffrances qu'on avait eues, je m'attendais à ce qu'on soit accueilli, on soit délivré par le Mashiach. J'ai vu les Américains et j'ai pensé qu'on était reparti pour un tour en quelque sorte. Et cette réflexion-là,
c'est beau en tout cas.
C'est magnifique.
Ah, c'est magnifique. Je vois les Américains, on me libère d'Auschwitz ou du camp dans lequel il était, et je me dis mince, c'était le Mashiach qui devait venir. Extraordinaire.
Et les Bnei Israël, ils ont mérité Moshe Rabbeinu, mais à la fin de la Shoah, on n'a pas mérité de voir le Mashiach. Là maintenant, on vit une crise mondiale. On vit une crise mondiale, et finalement, après une première phase où les gens se sont interrogés sur leur émouna, les gens se sont interrogés sur le sens du projet divin, le sens de la volonté d'Hachem, on est tombé dans les ornières du complotisme, contre les complots, pour le vaccin, contre le vaccin, et tout, etc. Et finalement, maintenant, la libération, entre guillemets, de cette histoire, elle vient avec une petite seringue, et on est tous là à se prosterner devant le dieu seringue. on va avoir un vaccin. Mais avec des millions de morts, des centaines, des dizaines de millions de gens qui ont été touchés, et donc quelque chose qui nous a mis avec une économie mondiale qui est aujourd'hui dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. On ne veut pas mettre sur les mêmes niveaux, évidemment, les niveaux de souffrance, mais si vous voulez, l'idée, elle est là. On vit aujourd'hui quelque chose qui ressemble à la période, ça fait près d'un an que ça dure, de la période des plaies, de la plaie d'Égypte, des 10 plaies d'Égypte. Pendant les 10 plaies d'Égypte, le Midrash nous dit que HaKadosh Baruch Hu était Nagof Verapé. Il frappait, il guérissait. Il frappait les Égyptiens et il guérissait les Bnei Israël, nos ancêtres, de l'esclavage égyptien. Il les faisait sortir, il leur faisait prendre conscience du fait que la nature était entre les mains d'Hachem. Nagof Verapé. Il frappait, il guérissait. En même temps qu'il frappait, les Bnei Israël étaient guéris sur le plan spirituel. Et nous, qui avons assisté à un an aujourd'hui de tourments, et qui au début avions parfaitement conscience du fait qu'on était en présence de quelque chose ici qui n'était pas de ce monde. Nagof, il y a eu des coups, mais il est où le rappel ? Elle est où la guérison ? Elle est où cette émouna ? Où elle est passée entre-temps ? On s'est tous pris, j'ai le sentiment, vous voyez, dans cette histoire, qu'on a loupé une interro. On a loupé un virage. Parce qu'en fait, on s'est passionné bêtement pour des histoires de complots, de manœuvres gouvernementales, de manœuvres, etc., manœuvres commerciales ou autres, etc. On est aujourd'hui, tout cela, à espérer dans une seringue. Bon, très bien, Hachem a donné un grand chesed, il nous a donné la seringue. Hachem a fait un grand chesed, il a donné les Américains. Hachem a fait un grand chesed, il a donné Eretz Israël.
En même temps, on ne va pas se plaindre. Rav Mordechai, excusez-moi, je vous ai rarement interrompu dans votre rachot. On ne va pas se plaindre que les Américains libèrent les camps de concentration. On ne va pas se plaindre qu'il y a un vaccin mondial qui débarque avant la fin 2020, alors qu'on l'attendait pour plus loin, et qu'on va pouvoir vacciner nos parents. On ne va pas se plaindre non plus.
On va prier et on va continuer à espérer à sortir de la galoute à Da'at. Parce que notre galoute, notre exil, est un exil du Da'at, c'est un exil du discernement, c'est un exil spirituel. Et cette immense aptitude qu'on a à espérer, qui est une aptitude juive, c'est l'aptitude de la émouna, de la foi, à voir plus loin que l'événementiel, il ne faut pas qu'elle se transforme en une satisfaction matérielle, une satisfaction médicale, alors qu'en vérité, dans la période qu'on vit, à chaque fois qu'on vit des périodes d'accélération de l'histoire, comme ça, où on voit des crises comme ça au niveau mondial, nos sages nous disent, on n'est pas très loin de pouvoir assister au dévoilement messianique. Donc en vérité, oui, bien sûr qu'on va se réjouir, bien sûr qu'on va être content, bien sûr qu'on va être content de pouvoir sortir de ça, mais il faut qu'on mesure de quoi est faite cette joie. De quoi est faite cette joie ? Est-ce que cette joie, elle est une joie parce qu'on a l'impression de retourner au quotidien et de pouvoir enfin aller à Dubaï ? Ou alors, ouais, ça, oui. Cette joie, elle est tout simplement une station sur la route qui, normalement, aurait pu nous mener à quelque chose de plus grand et où, finalement, ce saut dans la émouna qu'on a fait au départ, en route, on l'a un petit peu laissé de côté. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est une chose qu'il faut dire et qu'il faut répéter. À chaque fois qu'on vit, comme pendant les 10 plaies d'Égypte, les phases de Nagof Verapé, Hachem frappe, c'est vrai, mais d'un autre côté, il est censé nous aider à nous guérir de cette dépendance vis-à-vis des idolâtries diverses et variées. L'idolâtrie d'aujourd'hui, c'est la médecine, c'est la science, etc. Là, maintenant, on va se remettre à nouveau à se prosterner devant une seringue. C'est Hachem qui l'envoie, cette seringue. Mais si Hachem envoie une seringue, il peut aussi envoyer le Mashiach. Donc, il faut placer les choses dans leur juste perspective. Et je pense que ça, c'est très, très important. Quand on parle de Torah et quand on parle d'enseignement, de savoir placer les choses dans leur juste perspective.
Bien, Rav Mordechai Biton va essayer d'y penser, effectivement. Je pense pour le coup que l'exemple de Dubaï est très parlant. La façon dont... Alors voilà, on a fini le Covid, donc on va tous aller à Dubaï. On va d'ailleurs rendre les gens malades là-bas, on va revenir malades, mais ça, c'est pas grave. Ça, effectivement, ça, c'est... D'ailleurs, tout est parlant, mais Dubaï, c'est vraiment fort. Rav Mordechai Biton, merci. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shavua tov.
Maria Chadret est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Maria Chah, Shalom Aleichem, Shavua Tov.
Bonsoir, Shavua Tov.
Shavua Tov et Shabbat Shalom pour ceux qui nous retrouvent le vendredi après-midi. Maria Chadret, alors on continue avec notre parachat de cette semaine. Et en fait, il y a quatre vocables, quatre verbes différents qui sont utilisés pour parler, je parle sous votre contrôle, c'est évidemment vous qui me l'avez appris, pour parler de la sortie d'Égypte. Et vous voulez intervenir là-dessus parce qu'il y a aussi une deuxième idée, Mais pourquoi c'est aussi long pour sortir d'Égypte? On pourrait imaginer une grande tchouva, puis voilà, un grand soulagement. Pourquoi c'est pas interdit de, d'ailleurs, il y a des règles de tchouva qui disent comme ça, un moment où c'est clair que vraiment, voilà, tout est possible. Mais non, ça prend du temps. Et là où ça nous interpelle, à nous qui vous écoutons, c'est qu'on vit ça un peu aussi, nous. Hein. On en dit, c'est long quand même.
Complètement. Voilà, on ne s'attendait pas à ce que ça
soit. Expliquez-nous.
Ouais, c'est ça. Alors, j'ai voulu intervenir là-dessus parce que c'est vrai que dans cette paracha de Vaera, la grande particularité, c'est que Dieu apparaît sous son autre nom, sous le nom, le fameux tétragramme qu'on ne prononce pas, le Yud, puis le He, puis le Vav, puis le He, qui veut dire, en d'autres mots, globalement, je dirais, ça veut dire « je peux tout ». Mais alors, si justement tu peux tout et tu peux venir même briser les lois de la nature et créer ce miracle d'une sortie d'Égypte, on dit que jamais un esclave n'a pu sortir de l'Égypte antique, alors à combien plus forte raison un peuple entier qui était vraiment très très utile à la construction des pyramides, eh bien, pourquoi est-ce si long? Pourquoi est-ce si long? Et puis surtout, Moshe arrive au début, annonce une sortie d'Égypte, et en fait, c'est exactement le contraire qui se passe. Les travaux forcés deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Donc, on ressent très fortement le désespoir des Hébreux à ce moment-là, mais enfin, mais est-ce que ça va venir finalement, cette sortie-là? Et comme on le sait, la sortie d'Égypte, nous sommes invités à la vivre chaque année, non seulement quand on lit la paracha, mais aussi le soir de Pessah. C'est dire à quel point c'est l'événement fondateur du judaïsme, et c'est dire à quel point c'est l'élément qui va construire le juif, même au niveau individuel. C'est-à-dire, vous savez, Mitzrayim, on dit, c'est les oppressions, c'est l'étroitesse au niveau symbolique dans notre vie. Et donc, sortir d'Égypte, c'est sortir de toutes ces relations peut-être mauvaises, de tous ces mécanismes mauvais, de nos schémas de vie, de nos schémas de pensée, de nos incapacités à faire mieux. Donc, il y a du travail. Sortir d'Égypte, c'est un vrai travail tout au long de notre vie. Et l'exil, inversement, eh bien, c'est, en hébreu, ça se dit « galout », le verbe c'est « gala »,« gimel lamedhe », et le Maharal explique que ce terme-là d'exil évoque la notion de vague, un gal en hébreu, gimel lamed, c'est une vague, c'est-à-dire un mouvement qui t'emporte vers l'extérieur de toi-même. C'est-à-dire, c'est finalement ne plus être tellement connecté avec soi-même. C'est un exil. Aujourd'hui, on pourrait me répondre, écoute, nous ne sommes pas en exil, nous n'avons pas de décrets terribles. Oh, certes, l'antisémitisme ici et là, mais on est bien loin des pogroms et de l'inquisition et de la Shoah. Eh bien, en réalité, au sens profond, l'exil, c'est être exilé de sa vraie identité. C'est ce mouvement, cette vague vers l'extérieur. Et inversement, la Géoula, Gaal, on voit que les mots sont très proches, Gala et Gaal. Eh bien, dans Gaal, explique le Maharal, on a toujours cette vague, mais cette vague est brisée au milieu. Le Gal est brisé au milieu, il y a un Aleph qui va venir prendre la place du milieu, et le Aleph, eh bien, on peut dire que c'est nous, ou c'est Hachem, c'est cette identité, cette singularité qui brise le mouvement qui m'emporte vers l'extérieur de moi-même et qui me permet justement de me recentrer sur ma personne, sur mon identité. Eh bien, pour réussir, hein, comme je disais, c'est un gros travail de se recentrer vers soi-même et de réussir à vivre une vraie connexion avec nous, avec notre identité, avec Hachem, eh bien, il y a les fameuses quatre étapes de la sortie d'Égypte qui sont évoquées au début de notre paracha. On se souvient, le soir du Seder, qui ne connaît pas les fameuses quatre coupes de vin que l'on boit tout au long du Seder de Pessah et qui sont autant de symboles à la liberté. Alors, d'où viennent ces quatre coupes, nous explique la Gemara? Eh bien, précisément, des quatre vocables, des quatre verbes utilisés pour parler de la sortie d'Égypte. Ces quatre verbes sont les suivants. Dieu dit à Moïse, donc la reine est mort livné Israël, parle aux enfants d'Israël et dit-leur, Ani Hachem, je sais moi Dieu, moi le tétragramme, donc sous forme du tétragramme, Vehotseti etrem, sachez que je vais vous faire sortir de la souffrance égyptienne, Vehitsalti, et je vais vous le délivrer de ce travail, de ces travaux forcés, Vegaalti, encore un verbe, et je vais vous libérer. Et par une main étendue, et enfin, vais la carte y être, mais je vous prendrai pour moi, pour être mon peuple et ma nation. Donc, quatre verbes, encore une fois, symbolisés par nos quatre coupes de vin, mais qui sont en réalité le mode d'emploi des quatre étapes pour briser la vague de l'exil et se connecter vers une identité un petit peu plus authentique. Comment fait-on ? Alors, nos sages expliquent. Tout d'abord, « Vehotseti », je vous ferai sortir. Il s'agit ici de la servitude au niveau de l'esprit, une servitude spirituelle. C'est en fait ne même pas savoir, malheureusement, que je fonctionne selon des mécanismes et des schémas qui m'enferment. C'est ne même pas savoir que je suis devenue addict à mon portable ou addict à l'alcool ou aux réseaux sociaux. Ou que je me mets en colère pour rien, c'est ne même pas avoir cette authenticité de pouvoir porter un regard réel sur moi-même et dire « mais enfin, qui tu es pour te mettre en colère comme ça ou pour parler de telle façon à ton épouse, à ton enfant ?» Et c'est donc cet emprisonnement vraiment spirituel. Et de cet emprisonnement spirituel, expliquent nos sages, ce qu'il faut, eh bien, c'est une sortie forcée. Parce que la première étape de la sortie d'Égypte, c'est quand Pharaon, en pyjama, au milieu de la nuit, sort et dit à tous les Hébreux, sortez, foutez le camp, déguerpissez, je ne veux plus vous voir. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est l'Égypte qui a vomi les Hébreux. Et heureusement, parce que c'est difficile de prendre la décision de s'en sortir, la décision de changer, d'être différent, c'est extrêmement difficile. Et donc cette première étape, pour nous symboliquement, elle va ressembler à une situation, allez, je vais prendre un exemple pas trop angoissant, l'exemple d'une personne qui voudrait maigrir, mais qui n'y arrive pas, qui n'y arrive pas, qui n'y arrive pas, c'est assez parlant. Eh bien, la première étape où on est forcé, c'est quand le médecin dit stop. Stop, les analyses ne sont pas bonnes, vous êtes obligé. Et donc, on me force. C'est-à-dire que l'énergie ne vient même pas de moi, l'énergie va venir de l'extérieur, mais heureusement. Heureusement parce qu'il y a, du coup, une prise de conscience. Et c'est la première étape de la liberté. Cette prise de conscience. Ensuite, Vehit Salti, et je vais vous sauver. Alors, cette étape-là, qu'on appelle la Hatsala, c'est l'étape la plus longue, en réalité, dans nos propres cheminements personnels. C'est l'étape la plus longue parce que c'est l'étape dans laquelle nous ne sommes plus asservis au niveau spirituel. Nous avons en fait, du coup, ce recul et nous sommes capables de voir que. Allez, je vais dire, il y a une lutte entre moi et la bouteille d'alcool, mettons. Donc, je visualise cette lutte, je peux en parler, je peux même être actif dans cette lutte. Mais cette lutte est longue. Cette lutte est longue pour arrêter de se mettre en colère pour des bêtises, pour sortir d'une addiction ou pour avoir un meilleur comportement. C'est un travail, un long travail, un long processus dans lequel il ne faut jamais baisser les bras et il faut continuer tant qu'il y a... je vais dire, une petite bataille intérieure, eh bien, il faut continuer à lutter et à être vainqueur de cette bataille. C'est une longue, longue étape, l'étape de la Hatsala, de Vehit Salti, comme dit le texte. Et d'ailleurs, je préciserai que le soir du Seder, après le deuxième verre de vin, eh bien, il y a toute la soirée. Il y aura toute la soirée qui va se dérouler, tout le Seder et tout le repas, etc., et que c'est seulement en fin de soirée qu'on va boire les deux derniers verres. Et c'est un petit peu symbolique comme pour dire tout le travail est à faire dans cette étape-là de Vehit Salti, où j'ai encore une lutte intérieure et je continue à travailler, je continue à être actif pour me battre. Puis enfin arrive Vegaalti, et je vais vous affranchir, je vais vous délivrer d'un bras étendu. Alors la Géoula, c'est ce que je disais tout à l'heure, le verbe Gaal, c'est cette vague qui m'emporte mais qui est brisée au milieu et dans laquelle je peux me reconcentrer sur moi-même, eh bien, ça correspond au niveau de l'événement de la sortie d'Égypte, au moment où la mer s'est ouverte pour les Hébreux et refermée sur les Égyptiens, c'est-à-dire que les Hébreux ont eu la chance de voir leurs ennemis jurés morts dans la mer. Et ça, c'est extraordinaire parce que tant qu'ils ne sont pas morts, eh bien, il y a cette angoisse de retomber dans le passé. Cette angoisse de retomber dans cette ancienne relation qui était néfaste pour moi et dans laquelle il ne faut pas que je retombe, ou dans la bouteille d'alcool, ou dans mes colères, mes anciennes colères, etc. Chacun est libre de le voir à sa façon. Mais en tout cas, il y a un petit peu cette ombre du passé qui plane et qui est inquiétante. La Géoula, la vraie Géoula, c'est quand la bouteille d'alcool ne fait plus partie de moi. C'est quand mes excès de calories ne font plus partie de moi. C'est quand les choses qui font que dans ma vie, je veux une vie nouvelle, je veux un changement, eh bien, je suis non seulement j'ai lutté, je suis capable de le mettre en place, mais réellement, réellement, mon ancien schéma de pensée, mon ancien mécanisme a été anéanti. Et là, vous me direz que vous pensez que la Géoula est totale. Pourquoi y a-t-il besoin d'une quatrième étape ? Parce qu'en effet, nous sommes, avec ces trois étapes, on a l'impression d'être en train d'exprimer une liberté vraiment absolue et majeure. Mais il y a le quatrième verbe, « velakartietrem », « je vais vous prendre », »,« je vais vous prendre comme peuple », »,« vous allez être à moi, mon peuple à moi », dit Dieu. Et en fait, ça correspond au don de la Torah au niveau du Sinaï, quand nous étions au pied du Sinaï et que Dieu nous a donné la Torah. C'est-à-dire que non seulement nous avons réussi à sortir d'Égypte, mais nous avons tenté de sortir l'Égypte de nous-mêmes, de lutter, de l'anéantir, et en plus d'avoir un nouveau code de la route, d'avoir un nouveau schéma de vie, d'avoir une nouvelle orientation qui va guider mes pas. Et cette étape-là extraordinaire, si je me permets l'exemple que j'ai pris tout à l'heure d'une personne qui voudrait absolument maigrir et réussir ce long cheminement, eh bien dans l'étape Velakarti, cette personne non seulement a réussi ce qu'elle s'était fixé, mais elle est en plus à même de guider d'autres. Elle est en plus à même de donner des conseils et d'être utile pour les autres et de comprendre que finalement, l'événement difficile qu'elle a vécu a été important parce qu'il l'a aidé à dévoiler tout son potentiel, à dévoiler toute son énergie et à pouvoir maintenant être source d'énergie pour d'autres personnes. Et ça, c'est, je crois, l'apothéose, c'est extraordinaire quand non seulement on a pu s'en sortir, mais qu'en plus on devient une personne qui va en guider d'autres et qui va les pousser et les motiver à réussir à faire également ce cheminement. C'est-à-dire d'avoir de nouveau un nouveau mécanisme, un nouveau schéma, un nouveau code de la route, celui des 613 mitzvot, celui de la Torah. Il est évident que quand on suit ce code de la route, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas avoir des relations abîmées et négatives. Et c'est donc cette quatrième et ultime étape qui va venir signer la fin de la Géoula, la fin totale de ces quatre étapes de la Géoula. Et rappelons que, eh bien, on boit le quatrième verre à la fin du Seder avec le Hallel, quand on remercie Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Et que on ne va rien prendre derrière ce quatrième verre, rien ne va être avalé ni bu, et on va rester avec ce bon goût, ce bon dernier goût de Géoula entière et accomplie. Et bien qu'on ait ce mérite cette semaine, nous aussi, d'enclencher des mouvements et des processus de libération.
Amen, amen. Et moi, en vous écoutant, je pensais aussi beaucoup à la sortie de la crise du Covid. Parce qu'on
bien
se
sûr.
Dit, ben oui, vraiment, on y pense beaucoup en vous écoutant. On se dit, voilà, moi j'ai même entendu des dates. Allez, Tisha B'Av. Puis après, non, mais ça sera. Maintenant, on nous dit Pessah. Et ça fait penser, paraît-il, à l'accouchement aussi. Car une dame, évidemment, je parle d'un truc que je ne connais pas. Une dame se dit, voilà, je vais accoucher. Allez, je pars, je monte, on prend la voiture, on s'en va. Et non. Et ça, c'est encore difficile. Et ça recommence.
Vous savez, ouais. Dans la Chassidoute, on compare la sortie d'Égypte, bien sûr, en Égypte à la grossesse, et puis ensuite des contractions, des longues contractions, et puis on croit que c'est le moment, et puis c'est pas le moment, et puis Moshe nous le dit, mais non, c'est pas le moment. Et finalement, il y a un moment où ça y est, il faut que le bébé sorte. C'est maintenant, il faut qu'il sorte, et voilà, le bébé.
Et on a un bébé. C'est l'accouchement. Ben, espérons qu'on va avoir une sortie de ce Covid. Le jour où je vais baisser le masque, je vais dire, quel jour ? Maria Chadré, merci pour ces très très belles paroles et Shavua Tov et à la semaine prochaine.
À bientôt, au revoir Bernard.
Chaque semaine, 5 minutes, une halakha sur Radio Shalom grâce à Rav David Aben Danan. Bonsoir Rav David.
Bonsoir, et grâce à Bernard Abouaf également.
Ah, merci. Moi, je suis Clauditeur. Le journaliste, oui, il faut un journaliste. Alors, Rav David, on va parler ce soir de Birkat Alevana. Et Birkat Alevana, c'est la bénédiction qu'on fait de la lune, qui est l'une des pratiques peut-être les plus particulières du judaïsme qu'on ne trouve pas dans les autres grandes religions monothéistes. Et donc, quelle est l'origine de cette bracha?
L'origine de cette bracha, c'est une Gemara qui nous dit qu'il faut remercier Hachem à chaque renouvellement de la lune. Vous savez que nous l'avons expliqué il y a quelques semaines, lorsque nous avons fait un cours sur le calendrier juif, le mois dans le calendrier juif est basé sur le renouvellement de la lune, Chodesh, d'accord, renouvellement, eh bien la lune est Mitra Deshet, la lune se renouvelle chaque mois. En voyant l'apparition de la nouvelle lune, l'Agmara nous dit que nous devons faire une bracha dans laquelle nous remercions Hachem de faire arriver, de se soucier que le monde puisse avoir cette continuité et que la lune puisse réapparaître chaque mois.
Ok, alors j'ose une question, Rav David. Est-ce que ça ressemble un peu à de la Vodazara, excusez-moi, mais bénir la lune, pourquoi d'autres ont béni le soleil? Alors je sais que ça va mal passer ma question, mais est-ce que ça s'apparente, je ne sais pas, quelle est la différence, voilà, comment on va formuler avec la Vodazara?
Alors effectivement, bénir la lune dans le sens de vouer une divinité à la lune, ça ne s'apparente pas avec la Vodazara, c'est carrément de la Vodazara. Maintenant, la Birkat Alevana, ce n'est pas une bracha dans laquelle nous bénissons la lune, contrairement à son nom, dans laquelle nous bénissons bien Hachem de s'occuper chaque mois du renouvellement de la lune. Mais nous prenons quand même des précautions pour que ça ne donne même pas l'impression que nous adressions à la lune une quelconque divinité. C'est pour ça qu'avant Birkat Alevana, on récite certains psukim, certains versets qui montrent que c'est bien Akadosh Baruch Hu qui est responsable et qui est le maître de tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'on regarde la lune avant la bracha, mais on ne regarde pas la lune pendant la bracha, pour bien montrer qu'on ne s'adresse pas à la lune. Donc toutes ces précautions, on les prend pour justement ne pas donner cette impression et qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté. C'est une mitzvah qui est extrêmement importante, puisque au-delà du fait que nous éprouvons une joie à voir la lune se renouveler, à voir qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de la création chaque mois, eh bien la lune représente un petit peu aussi le Ham Israël, le peuple juif. Elle connaît des hauts, elle connaît des bas, elle était avant à la même luminosité que le soleil, elle a été diminuée et elle va finir par retrouver sa luminosité à la venue du Mashiach. Eh bien le peuple juif, c'est un peu la même chose, on connaît des hauts, on connaît des bas, et nous retrouverons toute notre grandeur à la venue du Mashiach. C'est pour ça qu'on attache une importance particulière à cette bracha, et qu'on la fait avec beaucoup de simcha, beaucoup de joie, puisqu'on a la joie de ce renouvellement sans cesse du peuple juif, qui donne peut-être l'impression parfois d'avoir des moments de faiblesse, mais qui en fin de compte renaît toujours, et qui finira par briller encore plus à la fin des temps.
Est-ce qu'il faut forcément être à l'extérieur?
Alors, l'Echa Trila, idéalement, oui, il faut être à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut être, puisque c'est un moment où on est Mekabel Penashrina, où on accueille la Shrina, on accueille la sainteté divine, et par respect à ce moment-là, eh bien, il ne faut pas être dans une maison, il faut être idéalement en extérieur. Il faut d'ailleurs voir la lune, non pas derrière une vitre normalement, mais carrément voir la lune en direct. Quelqu'un qui serait malade ou qui serait fatigué et qui ne peut pas sortir en extérieur, surtout dans nos contrées où il fait parfois particulièrement froid la nuit, et Birkat Alevana ne peut se réciter que la nuit, eh bien on pourra lui permettre de faire la bracha aussi à l'intérieur, dans une situation où c'est difficile de sortir. Mais idéalement, eh bien on doit sortir pour faire Birkat Alevana en extérieur.
Et pourquoi est-ce qu'on dit toujours Shalom Aleichem?
Le principe de Shalom Aleichem, c'est qu'il ne vous a pas manqué de remarquer, mon cher Bernard, que lorsque l'on fait Birkat Alevana, on ramène des psukim, des versets, dans lesquels on demande à Akadosh Baruch Hu de s'occuper de nos ennemis, d'accord, et qu'il nous laisse tranquilles. De la même façon que la lune, elle connaît des hauts et des bas, nous aussi connaissons des hauts et des bas. Et bien après, on s'adresse aux gens qui sont autour de nous pour bien signaler et dire voilà, signifier et dire voilà, les versets dans lesquels j'ai demandé à Hachem de s'occuper de mes ennemis, oui, mais nos ennemis, on leur souhaite ce qu'on leur a souhaité, mais nos amis et les gens qui sont autour de nous, eh bien eux, je leur souhaite le shalom, je leur souhaite la paix et exclusivement la paix. C'est pour ça qu'on s'adresse ces vœux de Shalom Aleichem après avoir fait Birkat Alevana, qui est une bracha dans laquelle je demande à Kadosh Baruch Hu de s'occuper de nos ennemis, mais de protéger d'un autre côté ceux qui sont nos amis.
Eh bien, Rav David Abendanan, chaque semaine avec vous, 5 minutes, une halakha. Merci pour cette halakha qu'on a appris ce soir concernant le Birkat Alevana, ce qu'on appelle la bénédiction de la lune. Merci à vous. Shalom Aleichem. C'est l'occasion. Shalom Aleichem.
Shalom Aleichem.
Shalom Aleichem.